Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, maître Yodul, membre de l'équipe de France de marathon, l'homme au mental d'acier. Salut Johan.
Salut à tous, mental d'acier et jambes d'acier.
Ah ouais, ça revient. Et ça, on va
ça
en
revient,
parler.
Ça revient, faut pas le dire.
Petit teaser, mardi prochain, épisode spécial Johan Durand. Où est-ce qu'il en est, la reprise, les prochains objectifs, voilà. Ça
on
va être fantastique, vous saurez tout. Le bilan et la perspective, c'est ça qui nous intéresse.
Ouais, bah pour l'instant je vois pas plus loin que demain donc.
mais qu'il y a les nuages à Font-Romeu, c'est ça le problème.
je me projette que sur la météo moi en ce moment.
Alors Johan, quand même, le grand jour approche, le record du monde RMC. Une pluie de stars et de surprises le week-end du 8-9 juin au stade Charletti. Les coureurs seront annoncés justement le 14 mai. Deux choses importantes le 14 mai, donc l'annonce des coureurs et l'anniversaire du Johan Durand. Voilà, donc deux événements à ne pas manquer.
Oui, et je veux des cadeaux.
Tu veux
tous
des
ceux
cadeaux
qui sont sélectionnés, ils peuvent m'offrir un cadeau, ça sera grâce à moi.
Je précise que pour les bénévoles, on est toujours en phase de recrutement. Si ça vous intéresse, vous postulez sur l'adresse suivante record@rmc.fr. Et on a un très bon épisode aujourd'hui, les amis, ça va vous plaire. Un très bon profil, un personnage attachant, talentueux, inspirant. On va recevoir Mustapha Salmi, Mousse Live sur les réseaux sociaux. Vous le connaissez certainement sur YouTube, sa chaîne YouTube. Il nous régale, il nous fait découvrir sa vie d'athlète. Fils d'athlète de haut niveau. Eh oui, son papa a fait les Jeux de Barcelone en 92, marathonien international algérien. C'est son entraîneur aujourd'hui. Mousse, pour vous donner une référence, c'est 1h04 au semi-marathon. Donc c'est un athlète de top niveau. Il va nous raconter son histoire, faire le point sur son état de forme et vous donner ses conseils. D'ailleurs, la séance d'entraînement sera adaptée à son profil. Si vous le suivez, vous avez vu cette vidéo. Comment on se remet d'un échec en course à pied? Le semi de Paris a été compliqué pour lui. C'était une très bonne vidéo de débrief, je vous invite à la voir. Donc on va parler de tous ces sujets avec Johan. Et puis on aura un beau bon plan matos aujourd'hui. Magnifique ouvrage qui ravira tous les marathoniens. Le livre Marathon, 42 destinations et conseils pour prendre le départ. 42 marathons mythiques à faire au moins une fois dans sa vie. On en parlera avec Fred Poirier, qui est photographe, collaborateur des revues Jogging International ou Running Attitude, et auteur de ce livre. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, allumez la caméra, on part à la rencontre d'un phénomène.
Déjà d'abord, moi, je sais pas si vous le savez, mais je m'appelle Mustapha Salmi, je suis du club le Rouen Normandie Athlétisme, plus précisément de la filière l'ASPTT Rouen Athlétisme.
Allez gars, allez.
Je cours parce que j'aime bien, c'est cool, c'est facile et en même temps compliqué.
Donc j'arrive en France, moi je suis originaire d'Algérie, j'ai vécu 13 ans en Algérie, à l'âge de 13 ans. À ce moment-là, je faisais du tennis, genre fort du tennis.
Pour s'entraîner, faut un objectif, et pour atteindre ses objectifs, faut s'entraîner.
Comme mon père, il travaille dans un club d'athlétisme et tout, je m'inscris à l'athlétisme quand même. À partir de ce moment-là, je fais de la perche. Je fais que de la perche.
À l'entraînement, tu vas jamais au-delà de ce que tu peux faire.
Comme le diraient beaucoup de gens, c'est un sport ingrat.
Plein de...
Ouais, mousse.
Petit café. Des œufs, là c'est du pain avec du miel, ça va être parfait ça.
Vraiment moi à chaque séance que j'y vais, je me dis putain mais qu'est-ce qui m'a amené ici? Mais qui m'a envoyé? Mais vraiment.
Ou sur les réussites parfois bah on n'apprend rien, alors que sur les échecs t'apprends mais tellement de choses.
En fait c'est soit je gagne, soit j'apprends.
Et il est là en direct avec nous, Mustapha Salmi, Mousse Live sur les réseaux sociaux. Salut Mousse.
Salut, merci pour l'invitation ouais. Et j'ai très hâte de faire ce podcast avec vous.
Avec plaisir, on s'appelle Mousse, hein. Enfin on t'appelle Mousse, on
ouais,
est d'accord.
Ouais, c'est beaucoup mieux.
De toute façon tout le monde t'appelle Mousse sur les parcours quand tu es engagé sur une course, donc on va t'appeler Mousse.
Ouais, il le faut.
Ah bon, comment tu t'es mis à la perche? C'est ça la vraie première question.
Ah ouais.
C'est fou cette histoire.
On a appris ça.
Comment tu te mets à la perche? Mais c'est fou, qu'est-ce qui t'est passé par la tête?
Ah, je ne sais même pas. En vrai, quand je suis arrivé en France, je me suis inscrit au début à l'athlétisme en plus du tennis.
Ouais.
Et en fait, quand tu es minime, tu dois faire ce qu'on appelle un triathlon à l'intérieur de l'athlétisme. Donc, il te faut un saut, une course et un lancer. Et moi, dans le saut, bah, c'était le saut à la perche. Et en fait, j'étais pas mal. Je gagnais pas mal de petits podiums, des trucs comme ça. Et du coup, en cadet, j'avais continué à faire la perche.
Et voilà. Et est-ce que tu as une référence à nous donner à la perche? C'est ça qui nous intéresse.
Ah, je faisais 3,80 m.
Pas mal.
En cadet.
Pas mal.
Ah ouais, prends j'avoue. Ça, Johan. T'as jamais fait ça, hein?
Non. Non. Jamais ça m'a traversé l'esprit.
Mousse, t'es où, là, actuellement? T'es en stage, hein, je crois.
Ouais, là, enfin... un peu stage vacances. Là, je suis à Annecy.
Ok.
Ma copine, elle a un appart ici. Du coup, on vient souvent ici parce que bon, c'est trop stylé de courir ici autour du lac.
Ah oui, quel spot, ça c'est sûr.
Vraiment, ouais.
Ouais, tu as raison. On en parlera d'ailleurs de ta relation avec elle parce qu'elle aussi est un espoir de l'athlétisme français. Grosse qualité, donc on pourra y revenir. Johan, tu connais Mousse?
Bah, je l'ai rencontré sur des OP avec mon équipementier, ouais. Comme ça. Après, je le connais pas trop personnellement. On n'a jamais partagé de stage ou d'entraînement en commun. Mais après, je le suis sur, comme tout le monde, hein, sur les réseaux et dans les, au niveau des performances. Mais c'est vrai que on n'est pas issus de la même génération et on s'est pas encore vraiment confronté, hein, que ce soit en compétition ou autre. On n'a pas eu trop l'occasion de courir souvent ensemble. Ouais.
T'as pas encore senti son souffle sur ta nuque sur un semi, quoi? Pas encore.
Non, pas encore.
Bon, ok, ça ne saurait tarder.
J'arrive.
Mousse, on démarre toujours par cette question. Tu y as répondu dans une vidéo. Est-ce que tu vas faire la même réponse? Pourquoi tu cours, Mustapha Salmi, alors?
Ouais, je pense que je vais vous donner la même réponse. C'est, je ne sais ouais. pas. C'est simple. C'est... mais je pense que c'est aussi ouais, le fait de pouvoir progresser et de pouvoir... en fait, c'est des petits grains de sable que tu ajoutes à chaque fois et qui te permettent de progresser tous les jours. Et c'est en fait ça qui me donne à chaque fois envie de revenir à l'entraînement le lendemain.
Mais t'es animé
c'est
par
moins
la...
dangereux que la perche.
Oui, en plus.
Exactement,
c'est vrai.
Aussi.
Ça, c'est t'es animé par la performance quand même, Mustapha.
Ah oui, 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 ouais. Oui. C'est le principal but de ma pratique. Mais ça reste une pratique saine, là où... ouais. Par exemple, bah, si la performance elle est pas là, bah, c'est pas grave, je vais revenir le lendemain.
Bon, raconte ton histoire dans un instant, juste après ton CV de coureur.
RMC,
le CV de coureur.
T'as quel âge, Mousse, aujourd'hui?
J'ai 24 ans.
Et tu cours depuis que t'as quel âge?
Et je cours depuis mes 17 ans.
Ah ouais, c'est pas si vieux, hein. Ça fait 7 ans de course ouais. à pied. Mmh. Tu cours combien de fois par semaine en moyenne?
12 fois.
Donc ah, deux fois mal. Par jour. Tu te fais un jour de repos alors?
Non, c'est non. deux demi-journées de repos.
Ah ouais, ouais, d'accord. Vous fonctionnez en demi-journée, ça je m'y ferai jamais. Ça ouais. représente combien de kilomètres par semaine, Mousse, en moyenne?
150, 160.
Ouais. Bon volume parce que t'es pas
c'est
encore marathonien.
Ouais.
Ouais, j'arrive doucement.
Ouais, c'est une distance qui t'attire. Des records perso ou des victoires dont tu es fier?
Je pense, ouais, le 1h04 au semi de Paris l'année dernière.
Ah oui.
C'est vraiment ouais, la perf qui m'a le plus ému et c'est celle qui aujourd'hui me représente le mieux, je pense.
Yodu, ouais, 1h04 à 23 ans, c'est hyper solide. Hein.
Non, et puis à Paris. Paris, on Paris, sait que c'est pas un parcours ouais. Non plus ultra favorable. Sur le semi, donc effectivement il y a encore des secondes à aller chercher, mais ouais, quand j'ai checké vraiment tous ses records perso, moi ce qui m'a sauté aux yeux c'est le semi, ouais. C'est vraiment celui qui sort du lot. Mmh.
Quelle est la dernière course disputée? C'était le semi justement?
Ouais, c'était le semi de Paris 2024 là.
Bon, on y reviendra. Voilà,
ouais.
Autre souvenir. Quelle sera la prochaine?
Là je sais pas du tout parce que je suis un peu en cours de reprise de blessure.
Ouais.
Donc là, le principal but, c'est de revenir à mon entraînement habituel et pouvoir peut-être faire une compète d'ici juillet-septembre.
Ok. Enfin,
juillet-septembre, c'est bien.
Si on parle d'entraînement, quelle est ta séance préférée?
Je dirais des 1000 mètres, genre un 10 fois 1000 mètres.
Ouais.
J'aime vraiment bien.
Quelle récup? Parce que c'est ça qui compte.
Une 30.
Ah, une 30,
30. Pas plus. Allez.
Ok, une 30 de récup. La séance que tu
pas
détestes?
Facile, celle-là.
Ouais.
La séance que je déteste, c'est peut-être 15 km de tempo.
Ah ouais?
Vraiment directement, ouais, autour de 3,20. Ça.
Faudra t'y mettre pour le marathon.
Ah, pour le marathon.
Ah ouais, là, t'auras pas le choix.
Ah, bah, c'est ça. Hein.
Bon, t'as un peu de temps, en tout cas. Moustapha Salmi en direct avec nous dans RMC Running cette semaine. Donc, en stage, on l'a dit, tu te remets, je crois, d'une blessure à la cheville. En fait, c'est quelque chose que tu traînais depuis des semaines, que t'as voulu soigner. Donc, t'as pris le temps de te soigner pour repartir de l'avant, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que je traîne depuis même plus longtemps, je dirais des mois et des mois, quasiment un an.
Ah ouais.
C'est un œdème osseux qui n'arrive pas à se guérir facilement. Et là, j'essaye de prendre vraiment le temps de le guérir comme il faut, avec vraiment avec une grosse gestion des contraintes dessus. Et du coup, bah, je réduis beaucoup le volume, surtout en course à pied, mais je continue à faire pas mal de vélo et d'aquajogging.
Quelle horreur.
Durand,
quelle horreur.
Doit bien connaître ça, ah, exactement. Ouais. Mais ouais, on essaie de garder le cap.
J'en ai des frissons.
Ah, tu m'étonnes. parce que tu es en train d'en sortir, Johan. Donc forcément, ça te rappelle de mauvais souvenirs. Mousse, tu as une idée d'où ça vient? Tu sais comment tu as provoqué ça?
Non, pas forcément. Je pense qu'à un moment, ouais, j'en ai trop fait. Surtout bah, l'année dernière, quand j'étais à Font-Romeu. C'est là-bas où on s'est pris une crêpe avec Johan. Ah. Et je pense que j'ai fait un peu trop de kilomètres. Je me souviens d'une semaine où j'ai fait plus de 180, je crois. Et j'en ai peut-être un peu abusé pendant plusieurs semaines. Et c'est quelque chose qui s'est un peu...
Des crêpes ou des kilomètres?
Ah, les deux. C'est peut-être le mélange des deux qui a un mauvais truc.
Tu sais ce qui m'inquiète, Mousse? Dès qu'on croise un gars, un athlète, il nous dit « Ah, j'ai croisé Johan, j'ai mangé une glace, une crêpe. » Jamais sur la piste. Jamais sur la piste, un footing ou une séance ou une course. Non, non, jamais.
Je vais être démasqué à fond.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Bah, la première fois qu'on s'est rencontré avec Johan, c'était autour d'une glace à Malaga.
Ah bah super.
C'est toujours autour de quelque chose.
Oh, ok. Il y a toujours de la bouffe qui traîne par là. Alors, je le disais, ton histoire est particulière parce que ton papa a été un marathonien international algérien, un record perso en 2h12.
Ça, je ne savais pas.
2h12 quand même, un record perso. Donc, là,
2h12 avec les savates à l'époque.
Savates. Et toi, Mousse, ça te met une certaine pression parce que tu as un objectif à aller chercher quand même assez ambitieux. Il a même eu la chance de disputer les Jeux de Barcelone en 92. Il finit 59e. Quelle histoire quand même, Moustapha.
Ouais, exactement. Bon, c'est ce qui a vraiment, on va dire, allumé la flamme en moi. C'est le fait que bah, mon père, il est entraîneur d'athlétisme. Et l'athlétisme a toujours fait partie de ma vie parce que, bah, comme mon père était athlète professionnel, bah, il était, on regardait tout le temps l'athlète à la télé. Nos idoles, c'était toujours bah, Hicham El Garouj, ouais. Mekissi, plein d'athlètes. Du coup, c'était presque logique que je m'y mette un jour à la course à pied.
Toi, tu as grandi jusqu'à 13 ans, tu l'as dit, en Algérie. Ouais. On sait que les Algériens sont complètement dingues de leurs sportifs, avant tout des footballeurs, mais aussi des différents sportifs. C'est-à-dire que ton père est une personnalité en Algérie. Tu l'as ressenti quand tu étais petit, toi?
Pas forcément.
Pas forcément.
Ouais, bah, mon père, si vous regardez mes vidéos et tout, vous verrez que c'est quelqu'un de très timide.
Ah oui, on le voit jamais.
C'est quelqu'un qui n'aime pas trop et tout. Du coup, il est plutôt quelqu'un vraiment timide qui n'aime pas trop les caméras. Tu vois, dans mes vidéos, je dois l'obliger à être devant les caméras et tout. Du coup, ça fait des moments hyper drôles. Mais c'est vrai que ouais, il est connu dans le domaine de l'athlétisme, mais l'athlétisme reste petit un peu en Algérie. Par rapport au foot, comme tu l'as dit, c'est un truc de fou le foot là-bas.
Ah ouais, c'est sûr. Johan, t'as des exemples comme ça de potes qui sont des fils d'athlètes? Je crois qu'on avait parlé avec...
Il y a Rudolf Lévis,
ouais.
Emmanuel.
Mmh.
Pareil, son père était un grand champion.
Mmh. Mon père, il courait en même temps que Rudolf Lévis.
Je crois qu'on en a parlé avec Benjamin Schocker à l'époque, qui était coureur, c'est ça, non? Tu te rappelles?
Ouais. Possible, ouais. Moi, de ma génération, je me rappelle du fils de Thierry Pantel, Pierrot Pantel, qui était un très bon coureur aussi dans les catégories jeunes. Mais c'est vrai qu'après, c'est souvent compliqué de se faire une place aussi après le papa, tu vois.
C'est pour ça.
Dans le rugby ou dans le foot, c'est plus commun d'être le fils de quelqu'un. T'as l'impression que c'est un peu une suite logique. En athlète, c'est vrai que, tu vois, on parle souvent de génétique ou de quoi que ce soit, mais c'est pas forcément vrai, hein.
Ah, c'est avant tout du courage et de l'abnégation. Il y a une dose de talent, mais il faut aller au charbon pour devenir performant. Mousse, il n'y a jamais eu de pression familiale. T'es venu à la clé tout seul. Il t'a jamais dit, moi j'ai fait ça, il faudrait que tu fasses pareil. Non, il t'a jamais poussé.
C'était l'inverse. En fait, vraiment, il ne voulait pas que j'en fasse pendant très longtemps.
c'est ça. Il sait à quel point c'est dur.
Je te jure que c'est ça. C'est exactement. C'est pour ça que j'ai commencé qu'à 17 ans, parce qu'en fait, il me disait, non, c'est trop dur. Ça ne sert à rien. Tu vas trop souffrir pour rien. Et il m'a dit, il faut être vraiment très, très fort mentalement pendant des années pour enfin avoir un petit niveau et tout. Et il avait raison, c'est vraiment dur.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que j'ai dû l'obliger un peu à m'entraîner. Et aujourd'hui, franchement, on s'entend hyper bien. Et je pense que même moi, en relation avec lui, parce que en fait, nous...
T'as des frères et sœurs, Mousse ?
Ouais. J'ai un grand frère et deux petites... Et une grande sœur et une petite sœur.
Okay.
En fait, moi, j'ai vécu loin de mon père pendant quelques années.
Okay.
Parce que lui, il vivait ici en France. Et moi, je vivais avec ma mère et mes frères en Algérie. Et ça a duré 5 ans, je crois. Et du coup, on s'était un peu perdu de vue, un peu, on va dire, pendant ces 5 ans-là, où il a fallu un peu reconstruire quand on a commencé à habiter à nouveau ensemble.
Ouais.
Et l'athlétisme, vraiment, ça m'a beaucoup aidé à avoir une très bonne relation avec mon père. Parce que quand tu partages une même passion, ça rapproche de folie, moi, je trouve.
Ça veut dire que c'était une évidence qu'il allait devenir ton entraîneur quand tu t'es mis à l'athlète, tu t'es dit « j'aime le long », c'est forcément Mohamed qui allait t'entraîner, quoi.
Exactement. Je lui faisais vraiment confiance. En fait, c'était... C'était vraiment, et c'est la première personne à m'avoir fait croire en moi, là où, en fait, j'avais vraiment pas un bon niveau en étant jeune. En minime, par exemple, je faisais 3,08 au 1000 mètres, qui est très, 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 très loin de ce que font les meilleurs qui sont à 2,40, même aujourd'hui, qui se rapprochent plutôt des 2,30.
Ouais.
Et en fait, lui, il me disait non, t'inquiète pas. Il faut que tu t'entraînes doucement. Là, on va pas brûler des étapes.
Ouais.
Et en fait, même quand j'ai commencé en KD2, il me disait, toi, tu seras bon normalement sur marathon, mais sur marathon quand tu seras plus âgé.
C'est génial.
Exactement.
Ouais.
Et du coup, c'est un projet qu'on construit depuis quasiment 10 ans et qui va, j'espère, porter ses fruits un jour.
Quand tu
c'est
fais...
pas simple d'être coaché par son père. Hein. Parce qu'on le voit avec. Il y a des exemples comme Anaïs Kemener.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire.
Je
exactement.
Pense aussi à Flavie Renoir qui est coaché par son père et qui va faire les jeux sur 3000 steeples.
Ouais.
Mais franchement, il faut trouver une alchimie parce que moi, j'ai vu plus de dégâts que de. Il faut que le père soit très intelligent, pédagogue. C'est pas facile. Hein.
Comment ça se passe la construction du plan d'entraînement, de la planification ? Tu as ton mot à dire, tu écoutes religieusement ce qu'il te dit, c'est une discussion, comment vous faites ?
C'est plutôt une discussion, parce que vraiment, on se parle pas mal. Comme par exemple, mon père aussi entraîne ma copine.
Ouais.
Et du coup,
c'est
même
Alice
là,
Seguin, hein,
exactement, qui est championne de France sur 1500 espoirs.
Voilà, s'il vous plaît.
Et du coup, je l'aide pas mal, même sur son entraînement à elle. Et du coup, même sur mon entraînement à moi, j'ai quand même beaucoup mon mot à dire par rapport aux séances. Genre, sur cette séance-là, je me sens mieux. Là, je sens que je galère sur cette séance-là. Et il prend beaucoup mon avis en compte pour gérer les semaines. Et c'est parfois du jour par jour, pas forcément semaine par semaine.
Ah, question qui peut paraître incongrue, mais au sein de la famille Salmi, le fait que tu aies cette proximité avec ton père, ça crée pas de jalousie avec tes frères et sœurs ? Parce que toi, t'es un peu ton père que pour toi, c'est ton entraîneur, t'as cette passion commune. Est-ce que d'ailleurs tes frères et sœurs pratiquent l'athlé ou pas du tout ?
Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est vrai que tout le monde sait que je suis le préféré de mon père. Tout le monde le sait.
Moi, je ne l'ai pas poussé à le dire, hein, mais ça paraissait évident sur le papier. Avant de parler de ton aventure et de ta façon d'utiliser les réseaux sociaux, parle-nous de ton couple, justement. On l'a dit, Alice Séguin, qui est un espoir de l'athlée, elle aussi, qu'on voit beaucoup présente, très présente sur tes vidéos. C'est une relation très forte, tu nous as dit. Elle est même entraînée par ton père. C'est fantastique de trouver quelqu'un qui te correspond déjà. Et ensuite, qui partage ta passion et qui a même cette implication dans ta famille, du coup, ça a été une évidence.
Ouais. En fait,
Je pense qu'avec Alice, on s'est trouvé au bon moment. C'était juste avant le confinement. Et le fait qu'on s'est mis ensemble à ce moment-là, ça nous a permis de continuer à bien s'entraîner, et même d'avoir tout le temps quelqu'un à qui tu peux tout raconter. Comme l'a dit Johan, ça peut être difficile parfois quand tu as ton entraîneur et ton père, c'est la même personne.
Ouais.
Moi, ça me permet de parler plus avec Alice, qui comprend vraiment bien mon entraînement, qui voit ça de l'intérieur. Et c'est vrai que nous deux, on a explosé un peu au même moment. Et je pense que c'est aussi dû à notre relation qui fait que on s'est toujours porté vers le haut ensemble.
Tu sais, j'y pensais quand j'ai vu ta dernière vidéo là, que tu as postée sur ton stage à Montegordo, parce qu'elle était là. Donc ça, c'est quand même une chance immense. Et je pensais aux autres athlètes, et Yodu, c'est une question que je peux te poser. C'est difficile une vie de couple avec un athlète de haut niveau, parce que ton exemple personnel, Johan, toi, tu n'es jamais chez toi. C'est-à-dire que sur une année, si tu es 7 semaines à Bergerac, c'est le grand maximum. C'est complètement dingue quand même.
Non, c'est compliqué. La vie d'athlète de... Pour les femmes d'athlètes de haut niveau ou l'inverse, pour les hommes qui vivent avec une femme qui fait du haut niveau, c'est vrai que c'est des sacrifices. Tu dois te mettre un peu en retrait et au service de la personne pour que l'autre puisse mener son projet, mener son rêve à bout. Donc quelque part, c'est un soutien, c'est un pilier. Mais par contre, il faut savoir que c'est une vie qui n'est pas du tout ordinaire et que la personne doit faire des sacrifices immenses pour l'autre. Donc effectivement, c'est pas facile, et quand tu trouves la bonne personne, faut essayer de la garder au maximum, parce que c'est quand même assez rare. Donc après, Mousse, c'est différent, ils sont tous les deux dans la même démarche de haut niveau, donc ils peuvent partir ensemble,
et puis ils coordonnent les stages, c'est une chance immense.
Elle comprend, et lui et vice versa, tu vois, ils comprennent ce que c'est que l'entraînement, la séance, la récupération, le ci, le là. Moi, à un moment donné, des fois, j'expliquais à ma copine que j'avais tapé 10 fois 1000 et que je voulais faire la sieste, pas aller au cinéma. Là, faut négocier fort.
Mousse, tu prends jamais de réflexion pour une sieste ou pour une séance ou un footing de récup.
C'est ça, parce que
non, non, non. ça va.
Exactement. C'est vrai, je me prends des réflexions pour la faire.
Ah oui, c'est ça. On te pousse à y aller. C'est le schéma inverse. Ouais, c'est ça. Finalement, t'as deux coachs. T'as Alice et Mohamed, ton papa. Du coup, c'est assez marrant. Parlons donc des réseaux sociaux. Mousse Life sur YouTube. C'est vraiment rafraîchissant parce que l'idée de base, c'était de faire découvrir la vie quotidienne d'un athlète de haut niveau. Il y a plein de thèmes différents. T'as ta façon et ta personnalité comme ça de décrire tout ça. C'est ce qui fait que t'as une grosse notoriété. Comment tu le vis? Comment c'est né? Et comment tu l'utilises encore aujourd'hui, Mousse?
En fait, c'est né vraiment d'une... je ne sais pas, en fait, j'avais commencé à faire des petites vidéos un peu sur Instagram. Ouais. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime trop les réseaux sociaux et surtout YouTube.
Ouais.
Et du coup, je regardais plein de vidéos YouTube sur le running et je voyais qu'il y avait plein d'Américains qui faisaient le genre de vidéos que je fais un peu aujourd'hui, genre des immersions dans leur vie d'athlète sans montrer forcément que l'entraînement. C'est même genre 80% du lifestyle et 10% de l'entraînement. Et moi, je me disais, mais ça m'intéresse presque plus que les séances, parce que les séances, c'est mon père qui gère ça, je sais que je fais du bon boulot, mais tout ce qui est à côté et tout, ça peut vraiment bien m'aider, et ça m'intéresse de voir comment les autres athlètes vivent leur passion. Et du coup, je m'étais dit, mais purée, c'est dommage qu'aucun Français le fait. Et là, je me suis dit la réflexion, pourquoi ça ne serait pas moi? Et du coup, j'ai commencé à le faire. Et en fait, c'est les gens, ils ont eu la même réaction que moi j'avais, genre ils étaient trop contents d'avoir ce genre de contenu, et du coup ça a fait que ils m'ont demandé plus et moi je voulais en faire plus et ça a continué pendant des années comme ça.
C'est ça, on n'est pas dans on l'embrasse d'ailleurs, notre ami Maxime Lopez qui a connu un échec à Copenhague et qui va y se revenir. On n'est pas dans de la vidéo de description, d'analyse de séance, de conseils à donner aux gens. On est vraiment dans de l'inside d'un athlète de haut niveau qui décrit sa vie, qui montre plus les à côté que les séances en elles-mêmes. Et c'est ce qui est sympa, Johan, quand on regarde Mousse, c'est qu'on ne regarde pas pour savoir comment faire une séance de 10 fois 1000, on regarde pour voir à quoi ressemble l'athlète, la vie d'un athlète de 24 ans qui a envie de percer au plus haut niveau.
Ça marche vachement, ça, et ça marche beaucoup. Moi, ça me vient pas à l'idée parce que je le vis de l'intérieur et que c'est ma vie.
Oui, toi, tu te rends pas compte de l'intérêt que ça peut avoir.
De l'intérêt que ça peut porter. Mais par contre, quand il y a des reportages tu vois, sur Netflix, sur le Tour de France à l'intérieur, ouais. sur la Formule 1, sur des équipes de foot, bah par contre ça je vais les regarder. Mais par contre les reportages sur l'athlète, je les regarde pas parce que c'est mon quotidien. Et du coup, je me rends pas compte que les gens, c'est exactement ça, c'est ce que les gens veulent voir, ouais. Aller voir du, bah, enfin, voir comment ça se passe de l'intérieur, effectivement.
Ça a du positif aussi, Mousse, parce que forcément, ça a dû te rapporter quelques revenus et des sponsors qui se sont encore plus intéressés à toi.
Ouais, énormément. Bah, au début, ouais, c'était, je vivais un peu de la monétisation parfois de YouTube, des petits partenariats. Et après, bah, en plus des performances qui sont arrivées aussi, quand j'ai fait un peu mon 1h04 sur le semi de Paris, bah, à ce moment-là, je commençais à intéresser peut-être des marques un peu plus grosses avec des contrats beaucoup plus professionnels. Bah, par exemple, bah, Puma aujourd'hui qui est mon principal sponsor. Et ça en a découlé en fait encore plus de contenu parce que en fait, je passais un cap dans ma vie d'athlète. Je devenais un athlète professionnel. Et là, en fait, niveau contenu, ça a fait aussi un cap ouais, où j'ai pu montrer aussi comment on vit quand on devient que athlète.
Ouais,
là où avant, c'était genre le chemin pour devenir athlète professionnel. Là, c'est devenu comment il le vit.
C'est la suite logique qui est racontée. C'est tout l'intérêt désormais parce que ça pousse aussi bah, l'intérêt des gens qui veulent voir comment ça se passe quand on franchit le cap de coureur de haut niveau à coureur professionnel. Il y a aussi des mauvais côtés aux réseaux sociaux, nous on le voit aussi un peu moins, mais sur ceux qui s'exposent beaucoup, c'est parfois la jalousie, ça peut être les remarques et les commentaires. Est-ce que tu es touché quand ça t'arrive? Comment tu réagis par exemple? Parce que, et autre question simple, est-ce que ça te met une pression particulière pour tes objectifs que tu annonces bien en amont, notamment sur le semi de Paris à chaque fois?
Ouais, en fait ça m'est arrivé plutôt sur le semi de Valence l'année dernière.
En octobre.
J'avais vraiment fait une grosse création de contenu autour de cet événement-là.
Ouais.
Et ça m'a mis une pression énorme. Alors qu'il n'y avait pas à avoir une pression comme ça. C'est juste moi qui me disais que, bah, en fait, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et même les gens, en fait, parfois, ils ne se rendent pas compte que en fait, on, 1h04, c'est bien. Et en fait, les gens, ils voulaient presque... Tout le monde m'a envoyé des messages en me disant « Ouais, tu peux faire 1h02. » Sauf que 1h04 et 1h02,
on se rend pas
c'est
compte,
un monde.
Ouais, bien sûr.
Tu vois,
ouais.
C'est un monde de fou. Et du coup, moi, je sais pas, j'ai la pression, la peur et tout m'a fait partir un peu trop vite. Et j'ai fait plein d'erreurs avant. Par exemple, je me suis bourré de caféine avant. Ouais. Vraiment des erreurs de débutant. Et ça, je l'ai expliqué aussi. Et ouais, non, franchement, la pression, je pense que la pression, c'est moi qui me les suis mise. C'est pas forcément les gens qui ont fait que...
D'accord.
C'est ça.
Est-ce que parfois, parce que toi, tu es dans les têtes de peloton des grosses courses comme le semi de Paris, les semis très relevés, tu sens un peu de jalousie chez les autres coureurs ou pas du tout?
Non, pas
le côté notoriété, le côté exposition, tout ça?
Non, franchement, je m'entends hyper bien avec plein d'athlètes, vraiment. Et de toute façon, on se croise en stage. Les gens, ils voient que, bah, en vrai, je suis un peu comme eux. Enfin, genre, il n'y a rien qui change. Moi, j'essaie juste d'être le meilleur athlète possible, tout comme eux. Et c'est juste moi, je documente ça. Et non, franchement, j'ai que des retours positifs des athlètes. Vraiment, même eux, ils m'encouragent. Et,
ils doivent s'identifier aussi, du coup. Hein.
Exactement.
Ouais, parce qu'ils voient leur vie à travers tes vidéos. Comment réagit ton père par rapport à ça? Cette chaîne YouTube, les vidéos que tu fais, qu'est-ce qu'il en pense?
Au début, c'était un peu... Parce que lui, ouais, il est de la vieille école. Il disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, je venais en séance, je venais avec une caméra. Il disait, mais on n'est pas là pour ça. Et après, en fait, il a commencé à comprendre... Je pense au moment où des gens, quand on allait en compétition, ils me demandaient des photos. Les gens, ils l'interpellaient, même lui, tu vois, qui n'était pas dans le truc. Ils disaient, c'est pas toi, Momo. Il l'appelait Momo, tu vois. Il disait, Momo, tu peux dire à Mustapha que j'aime trop ses vidéos et tout.
Bon,
et du coup, ouais, là, il a commencé, je pense, à prendre plus connaissance un peu du truc et tout. Et après aussi, bah,
quand il a vu aussi bah, que j'arrivais à vivre de ça complètement,
ouais.
Et en vrai, il me soutient énormément. Et aujourd'hui, c'est mon plus gros, je dirais pas fan, mais oui, on peut dire, puisque c'est mon père, c'est mon plus gros fan.
Et il regarde les vidéos ?
Mais il ne les regarde pas une seule fois,
ah,
il les regarde 600 000 fois.
C'est lui qui met les vues.
Ah, vraiment.
Excellent.
Il peut me dire genre, des petites remarques, genre tu feras gaffe, tu t'es mal coiffé à ce moment-là.
Ah, c'est bon ça.
À un moment, tu as fait une erreur quand tu as parlé, ou un truc comme ça, et c'est hyper marrant.
Mais moi, je me permets juste une réflexion personnelle, parce que nous, on fait un peu le même métier, même s'il y a moins d'exposition de l'image par rapport à vous. Et Johan peut en être témoin, c'est vraiment une question de personnalité. C'est-à-dire qu'il faut avoir la personnalité pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire si vous ne vous sentez pas de le faire, mais vous vous obligez à le faire, là forcément que ça ne marchera pas. C'est toujours pareil.
Ouais, si c'est pas vrai.
Il y a plein de gens qui veulent se lancer comme ça sur les réseaux, raconter un peu ce qu'ils font à travers nous, notre passion commune, la course à pied. Mais Johan, toi tu dois le voir tous les jours, il faut la personnalité pour. Mousse, là, et tant mieux pour lui, et il se régale à faire ça.
Exactement.
Mais si tu ne l'as pas, tu ne peux pas te forcer à devenir quelqu'un d'autre.
Ouais,
quoi,
c'est, ouais,
ça
ouais, c'est vrai.
Non, non,
c'est
mais
vrai.
C'est sûr.
Ouais. Tu le ressens, toi, Mousse, toi tu te forces jamais à faire quelque chose ou à être différent,
exactement,
à être un peu faux devant la caméra ou quoi.
C'est ça, moi, que je dis, c'est que les gens, ils pensent que ma seule passion, c'est l'athlétisme, mais en fait, j'ai deux passions. C'est la vidéo et l'athlétisme.
C'est ça.
Et c'est ça qui fait que je puisse faire les deux aujourd'hui, parce que les gens ne le savent pas, mais je fais aussi beaucoup de vidéos pour des gens ou peut-être parfois des petites marques ou un truc comme ça, qui, sans que ce soit pour moi, vraiment, je le fais pour les autres.
Mmh.
Et ça, c'est vraiment mon plaisir à moi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que des fois, bah, s'exposer comme ça, c'est pas fait pour tout le monde parce que ça... Il y a certaines personnes qui vont peut-être parler, tu vas être plus vu et tout. Et ça, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas
gérer ça. Il faut vivre avec, quoi.
Ça.
Eh ouais,
exactement.
Ouais.
Moi, j'ai dit que je n'avais pas trop de haters, mais c'est peut-être ma personnalité qui ne les voit pas forcément.
C'est sûr.
Genre, moi, par exemple, j'en avais un qui était hyper marrant, je trouve. C'était parce que moi, l'année dernière, j'avais abandonné au semi de Valence.
Mmh.
Et il y avait un qui, après ça, sur chacune de mes publications, il commentait genre par rapport à ça. Il me disait genre, tu nous as fait chier pendant des mois sur le semi de Valence pour finalement abandonner.
Ouais,
du coup, je le bloque. Et après, même quand j'allais commenter d'autres publications d'athlètes,
il
venait, il me laissait pas tranquille.
Oui, mais
tu vois, moi, je l'ai pris à la rigolade.
Tu vois, là, on en sourit, mais il y a plein de gens qui ne supporteraient pas ce genre de choses.
Exactement.
Et que ça peut hanter. C'est-à-dire que sur 1000 commentaires, un commentaire négatif, ça va te... Nous, on en a fait plusieurs, hein, des personnalités de ton profil qui n'ont pas un niveau aussi élevé que le tien. Je pense à Nico de Running Addict ou ce genre de choses. Bon, Maxime, lui, Runway, c'est différent parce qu'il a aussi un top niveau français sur marathon. Il faut le digérer, ça, Johan. Toi aussi, parfois, parce que t'es pas mal exposé, Johan, t'es moins génération réseau, mais t'es très présent dans les médias et les podcasts. Tu dois prendre quelques réflexions, il faut être armé pour le digérer, quoi.
Ouais, il faut être armé, il faut avoir du recul, et c'est vrai que ça, c'est plutôt l'âge qui, tu vois, moi, peut-être qu'à 25 ans, j'aurais pas réagi de la même façon que je réagis aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, ça me passe au-dessus de la casquette, mais l'argent, ce que les gens peuvent penser ou peuvent dire de moi, donc, ouais, c'est pas simple, c'est la difficulté des réseaux sociaux, c'est que t'as tout, bah, on va pas les appeler les abrutis, hein, mais c'est pas loin de s'appeler comme ça, t'as les mecs, ils sont là tout le temps pour clasher, pour chercher un peu de haine, alors que bah, le but des vidéos de Mousse, c'est un côté bienveillant, c'est de montrer sa vie, il en a, voilà, si tu veux pas regarder, bah, regarde pas, mais viens pas commenter, et viens pas poser ta haine là sur des trucs sur lesquels t'as rien à dire.
Mousse, question simple, est-ce que c'est toi qui fais le montage des vidéos ou est-ce que tu as une équipe qui t'aide ?
Il n'y a qu'un seul projet sur lequel il y a une équipe qui m'a aidé. Sinon, tous les autres vidéos, c'est moi qui les fais. C'est juste sur le dernier, sur le semi de Paris, où on a fait vraiment une grosse production dessus avec Puma qui m'ont beaucoup aidé sur ce projet-là.
Ouais.
Mais sinon, ouais, c'est moi qui gère tout ce qui est montage. Et tout
donc,
ce qui
ça
est
prend
après,
du temps. Parce que ça aussi, on ne se rend pas compte, mais monter une vidéo comme ça sur 20 minutes, ça prend un temps monstrueux.
Ouais. Ça se compte en 40, 50 heures sur le montage et tout ce qui va avec.
Est-ce que tu adaptes justement les vidéos à ton entraînement, l'intensité de ton entraînement ? Est-ce que quand tu es en grosse phase d'entraînement, tu te dis bah, « je mets la vidéo de côté » ?
Ouais, ça c'est primordial parce que sinon, j'arrive pas parce que on ne se rend pas compte, mais c'est quand même une vraie charge mentale de faire une vidéo, d'être concentré. Et quand tu fais une séance où tu dois souffrir et il y a quelqu'un qui te filme, à un moment, c'est difficile.
Ah ouais,
parce que c'est pas marrant, une vidéo où juste tu souffres et t'es énervé contre le caméraman.
C'est sûr.
On va voir ailleurs là-bas.
C'est sûr. Non, mais c'est bien
du
de
coup,
le dire aussi.
J'essaye de caler ça.
Un mot tout de même donc, sur ce que tu as vécu à Paris en février dernier. Déception relative à l'échelle des coureurs réguliers que nous sommes pour la plupart. 1h08 sur le semi de Paris. Bon, tu avais fait 4 minutes de moins l'année précédente. On te voit toucher à l'arrivée, mais au final, comment tu l'analyses cet échec, Mousse?
Je l'analyse avec... C'était un jour sans, on va dire. Je ne saurais même pas expliquer comment ça s'est passé. Ma prépa, elle ne s'était pas non plus hyper bien passée parce que, comme je l'ai dit, c'était l'œdème osseux qui décidait plutôt de mes séances plutôt que mon entraîneur. Et du coup, j'ai eu pas mal de séances qui ont un peu été difficiles de ce côté-là. Mais je pensais être prêt à être au niveau de mon record. Et en fait, parfois, on ne peut pas l'expliquer.
Et c'est important de passer par là, Johan, parfois aussi. Il y a forcément des paliers de progression à passer, surtout quand on a l'âge de Mustapha.
Il l'a dit, soit je gagne, soit j'apprends. Mmh. C'est vrai que quand tu es jeune et que tu as une progression, tu n'as jamais une progression linéaire. À un moment donné, tu as forcément... quelque chose qui te freine. Là, il analyse, tu vois, le fait d'avoir eu une blessure qui l'a gêné dans la prépa et qui l'a perturbé. Il y a peut-être un peu plus de pression. Il y avait des attentes parce qu'il avait fait 1h04 l'année d'avant et que du coup, pareil, comme il l'a dit pour le marathon de Valence, c'était un peu plus attendu. Donc après, ça, c'est des choses qu'il va devoir gérer. Et il faut passer par ces étapes-là, par ces échecs, pour apprendre et puis après pour rebondir et ne plus les reproduire. Et là, le fait qu'il soigne, qu'il ait compris que probablement cet échec était lié à une blessure et que là, il te dit, je prends le temps pendant 3 mois, je ne prévois pas de compète avant juillet ou septembre. C'est une vraie démarche d'athlète de haut niveau sur du long terme qui se dit que pour aller être plus performant, la première chose à faire, c'est me soigner, tu vois.
Justement,
donc ça, c'est bien.
Mousse, t'as l'objectif en tête de grimper sur marathon. Ton père a vite compris que c'était la distance, c'était forcément ta distance de prédilection. C'est quoi le plan, la planification? Quand est-ce que tu penses que tu monteras sur les 42
km? Là, c'est la question.
C'est la question à 1 000 euros.
Okay. Et en vrai, moi, je vais vous faire une petite confidence, c'est le plus tôt possible. Vraiment, là, je pense...
T'as envie d'y aller, tu te sens mature pour y aller, quoi. Okay.
Exactement. J'ai qu'une seule envie, c'est de borner, de vraiment, et vivre vraiment un marathon de l'intérieur.
Ouais.
Et je pense que j'ai un peu la même vision que ce qu'il avait dit Mehdi Frère, le plus tôt je commence le marathon, plus tôt j'ai de l'expérience, plus tôt je pourrais faire des bons chronos peut-être me rapprocher des 2h12 de mon père et pourquoi pas aller chercher encore mieux.
C'est-à-dire un Mousse Life au départ du marathon de Valence en fin d'année, c'est possible, admettons.
C'est pas impossible.
Si la cheville le veut, c'est pas impossible. Juste avant de passer à la séance, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton plan d'entraînement pur et dur? Comment ça s'organise? Une semaine type organisée par Mohamed, ça ressemble à quoi, par exemple?
On va commencer lundi avec une séance, je pense, de VMA. Par exemple, un bon... 20 x 400, vraiment basique. Ouais, avec
d'entrée, premier jour de la semaine.
Exactement. C'est tout ça.
Et faire ça avec 1 minute de récupération. Mm-hmm. Après, l'après-midi, petit footing tranquille de récupération. Lendemain, enchaîner avec 2 footings tranquilles et aussi une petite muscu.
Ouais,
après, okay. Le mercredi... je dirais peut-être de l'actif, un footing de 15 km, peut-être autour de 3,45.
Ok.
3,50, 3,45. L'après-midi, refaire un petit footing juste comme ça et des accélérations. Jeudi matin, on va se faire un bon 10 fois 1000. Ça va être super sympa.
Celle-là, il aime bien, donc il la met tous les jeudis.
Celle-là, je l'attends. Après l'après-midi, on va dire peut-être footing ou même repos parfois.
Ouais.
Le vendredi, ça va être... Vendredi, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, ça va être des footing aussi, tranquille.
Récup, ouais.
Et après le samedi, on va faire un tempo... soit un tempo ou soit de l'actif. Ça dépend comment je suis chargé.
Ça manque de côte, hein, tout ça, Moussa. Hein.
Ah, c'est pas fait pour moi. Nous, on fait pas trop de côte. et du coup, ouais, enchaîner juste le dimanche avec une sortie longue. Pour l'instant, je fais pas plus de 25 km.
Ah, ok. Ouais.
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est bien.
Ouais. Franchement, ouais, ça va. Je les aime bien. 25 km, ça me suffit. Et la semaine se finit sur ça.
Ah voilà, une grosse semaine quand même, hein, en termes
de... Ah, c'est costaud, ouais. Ouais.
Et avec tous les paliers travaillés, hein, c'est ce qu'on répète souvent, mais il y a de la VMA courte.
Bah oui, t'as de la VMA courte avec les 400, voilà. T'as de la VMA plus ou moins longue avec les 1000 SP10 un peu, t'as exactement. Du tempo le samedi un peu au seuil, t'as de l'endurance fondamentale et des footings un peu actifs à 350 pour faire un peu de fond. Donc, puis après, tu as des footings autour de cool, un peu de muscu, il y a tout ce qu'il faut. Ouais.
Ben voilà.
Sauf les côtes.
Bravo. Bravo.
Et j'ai envie... Où est-ce que je pourrais les caler?
Ouais, c'est ça.
Dis-moi,
ça.
Johan.
Ouais. Dis-le à Mohamed. Vas-y, donne-lui un conseil.
Exactement.
Je ne peux pas donner tous les conseils à tout le monde. Je coach déjà Benoît Boutron.
Oui, bah oui, bah oui. Il y a moins d'enjeux. Il y a moins d'enjeux, je te le dis. Ah, il m'a fait une... ah, Mousse, il m'a fait une bonne séance de côte la semaine dernière. Il m'a fait 15 fois 30 secondes très vite en montée, mais récup vite aussi. Et tu récupères.
Ah ouais.
Voilà. Tu montes vite, tu descends vite et tu récupères 50 secondes en bas. Alors, ça paraît rien sur le papier.
Je vais garder mes 10 fois 1000.
Voilà, c'est ça. Alors, ça paraît rien sur le papier, mais essayez, vous verrez que c'est pas une partie de plaisir.
Oui, mais marathon pour tous, mon ami.
Oui, c'est vrai, mon pote.
400 mètres de dénivelé.
Allez, on attaque la séance tout de suite.
RMC.
La séance.
On le disait, Johan, c'est un passage obligé dans la carrière de sportif pro ou amateur, l'échec. Malgré des semaines de prépa, des efforts consentis, une course se passe mal, l'objectif s'envole. Et là, on se pose 1000 questions. Alors, tu vas nous donner les conseils pour vite rebondir, justement, et digérer cette épreuve qu'on va tous traverser. Johan, rappelons déjà que c'est un passage obligatoire. Hein. On passera tous par là, quoi qu'il arrive, à un moment dans notre carrière de sportif amateur.
Même Michael Jordan, Pep Guardiola, tous les plus grands qui ont gagné un jour, ils ont forcément perdu aussi, Nadal et compagnie. Tu vois, tu peux pas toujours gagner et tu peux pas surtout... nous, en athlée, on est quand même... tu peux gagner une course, mais des fois, le chrono, il te convient pas. Donc, en plus de devoir gagner la course ou la lutte d'homme à homme, des fois, c'est... Tu cours surtout contre le chrono. Donc effectivement, tous les coureurs, un jour, on va ressentir cette déception. Et la première chose à faire, il faut voir, essayer de comprendre un peu ce qu'on voit dans l'échec. Tu vois, des fois, on estime, tu vois, je sais pas, Mousse, il vise une 4 sur son prochain semi, il fait une 4-30. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est un demi-échec? Tu vois, il y a aussi cette notion-là à prendre en compte. Mais la première chose à faire, c'est clairement de faire un bilan poser, tu vois, et de réfléchir aux raisons de cet échec, quels sont les éléments qui ont contribué à cette situation, tu vois, les erreurs que tu as pu commettre dans la préparation, tout ça. Mais ça c'est un bilan qui se tire quand même quelques jours après, tu vois. Moi, je suis toujours étonné des gens qui peuvent te donner leur ressenti. Tu vois, par exemple, quand tu interviews un entraîneur de foot 3 minutes après le match, le mec, il te sort, c'est soit la faute de l'arbitre, t'as pas encore le recul. T'as pas la réflexion, t'as pas revu les images. Et toi, c'est pareil par rapport à ton entraînement, t'as pas encore la capacité d'analyse. Donc ça demande d'être checké, mais plutôt à froid, de se poser, de prendre l'apprentissage et tout. Et de partir, voilà, de prendre un peu de recul pendant quelques jours par rapport à ça.
Précisons que c'est normal d'être en colère. Hein. Enfin, ça,
c'est un sentiment tout à fait humain. Et... t'as de la frustration, t'as de la colère, t'as de la tristesse.
La pire des choses, c'est de le garder pour soi, de toute façon, et de se dire c'est rien, d'essayer de s'auto-persuader que en fait c'est rien et c'est pas grave.
Bah, t'as deux types de quoi. Hein. T'as ceux qui vont s'auto-persuader en disant bon, bah ouais, c'est rien, machin, truc, ils vont garder leur colère un peu enfouie. Et t'as ceux qui vont. Tout balancer du, tu vois, ils vont se dire, bah, tout est de la merde, de toute manière, je fais de la merde, tu vois, ils vont vraiment plus penser du tout positivement, jamais content d'eux, tu vois, tu remets tout en question, le coach, bah, c'est sa faute, le prépa physique, c'est sa faute, le kiné, c'est sa faute.
C'est vrai que c'est souvent de ta faute, Johan, quand ça se passe mal.
Mais, t'as ce genre de coureur aussi qui, pour ils vont juste passer un petit... Tu vois, des fois, il n'y a pas grand-chose à changer, hein, des fois, dans la préparation ou dans un échec. Et ils vont tout jeter d'un revers de main, ils vont balayer la table, ils vont dire, allez, je repars à zéro. Ouais.
C'est ce que j'allais vous dire à tous les deux, d'ailleurs. Mmh. L'erreur majeure, c'est surtout de vouloir tout changer. Ça, c'est...
Mais là, ça redemande encore plus de recul. Tu vois, c'est pas en 2-3 jours, mais là, il faut parler avec l'entraîneur, il faut parler avec le préparateur physique, il faut que tu te parles avec toi-même. Tu vois, savoir pourquoi est-ce que tu t'es foiré. Est-ce que c'est lié à la pression? Est-ce que c'est lié à la course? Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres à être capable d'analyser pour apprendre et grandir de ça. Ouais.
Mousse, tu te reconnais là-dedans? Quel conseil tu pourrais donner, d'ailleurs, quand on sort d'un échec et qu'on veut relever la tête?
Ouais, c'est ça, c'est prendre le temps de vraiment réfléchir à, parfois, ouais, comme l'a dit, ce qu'on a fait de mal, mais aussi voir aussi ce qu'on a fait de bien. Et parfois, exact. Dans les échecs, il y a plein de trucs qu'on peut garder. C'est pas forcément... ouais, comme il a dit, il y a un demi-échec. Tu vois, dans tout échec, tu peux en tirer du bon.
Après, la différence entre vous et nous, c'est que vous, c'est votre métier, entre guillemets. C'est-à-dire que vous êtes focalisé là-dessus.
La difficulté, c'est que nous, on n'a pas trop droit à l'erreur. Tu vois, c'est-à-dire que moi, si je me foire, mes contrats, mes sponsors, mes partenaires, c'est des rentrées d'argent en moins. Le coureur lambda, le lundi matin, il repart à la boucherie travailler et ça va pas changer son quotidien. Bah,
question bête, Johan, mais combien de temps t'as mis à digérer l'échec olympique, entre guillemets?
Est-ce que je l'ai digéré déjà, tu vois? C'est une bonne question. Je pense que tu mets quand même pas mal de temps, tu vois. Je le vois aujourd'hui où j'ai du mal c'est pour ça que je suis aussi monté à fond Romeu, c'est pour remettre un peu en route la machine et retrouver une habitude parce que je sentais que chez moi, j'avais plus du tout la même motivation et la même envie que quand tu te lèves tous les matins pour aller te qualifier au jeu, c'est facile de trouver la motivation. Quand tu te lèves pour aller faire les 10 km du quartier, c'est pas sûr. La même, hein, donc
mais c'est tout l'enjeu et le levier le plus important.
Il faut trouver des nouveaux objectifs.
Voilà, comment se relancer. Exactement. Et là aussi, il y a des erreurs à ne pas commettre. L'erreur majeure, ça serait, je pense, Johan, tu me confirmes si c'est vrai, mais de se relancer tout de suite, c'est-à-dire tu sors d'une course ratée, quelle que soit la distance, et tu reprends un dossard immédiatement pour essayer de te rattraper.
Ça dépend de comment t'es passé à côté. Voilà. Des fois, si tu passes
ça dépend de la distance aussi, je pense.
Ouais. Oui, voilà, un 10K, un 5K ou même un semi, tu te dis t'es passé à côté, tu peux rebondir, tu vois. Ça peut matcher et même par exemple sur marathon, tu vois, moi, un souvenir me vient en tête. Abderrazak Chari qui va au marathon de Berlin, il abandonne au 28e, pas bien, pas de jambes et tout, il abandonne vers le 25 parce qu'il se dit bon, je suis pas dans un beau jour, c'est de la merde. 15 jours après, il va au marathon d'Amsterdam, 2h08:30.
C'est vrai.
Donc, des fois, tu te...
À 20 secondes des minima olympiques.
À 20 secondes des minima olympiques. Ouais, donc, des fois, l'échec, il peut être sur du court terme. Tu vois, parce qu'il était sûr de sa prépa. Il était sûr qu'il avait fait une bonne prépa, que ça s'était bien passé. Malheureusement, le jour de Berlin, il n'avait pas les jambes. Tu t'abandonnes et tu rebondes. Tu peux des fois rebondir très vite. Hein. Ouais. Si t'es convaincu qu'en fait, la vraie problématique, elle vient juste du jour J parce que t'as pas géré la pression, parce que t'as fait des erreurs dans ton alimentation, la météo est pas bonne ou autre.
Parce qu'il y a des facteurs extérieurs de performance, voilà. T'as raison de le dire. Parfois, il peut y avoir du vent, de la densité ou un manque de densité d'ailleurs pour vous. Mais,
exactement.
Ouais. Et comment t'as réagi toi? Comment t'as rebondi, Mousse? Comment tu es reparti au combat? Déjà, t'avais l'enjeu de soigner la cheville, donc c'est différent, mais t'as pris ce temps justement pour aussi digérer ce qui t'était arrivé sur le sommet de Paris.
Ouais, j'ai coupé juste après. Je suis parti en Algérie pendant 10 jours. Ça faisait 7 ans que j'étais pas rentré en Algérie.
Ah ouais. Okay.
Et du coup, ouais, ça m'a permis de vraiment prendre du recul. Mmh. Et en fait, directement en rentrant en France, j'ai su que en fait, mon objectif aujourd'hui, c'est de soigner ma cheville et c'est elle après qui va me permettre de vraiment progresser. Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est pour s'entraîner, il faut avoir des objectifs, et pour atteindre ces objectifs, il faut s'entraîner. Mmh. Et du coup, c'est ce cercle vertueux qui va faire que tu vas avoir une pratique, on va dire, saine.
Et puis, on fonctionne à l'envie, Johan, c'est peut-être le dernier conseil, mais il faut pas se forcer si on n'a pas envie, surtout si on est coureur amateur, quoi.
Faut pas se forcer, faut reprendre confiance en soi, faut être patient, tu vois, c'est vraiment le maître mot aussi, c'est de se dire, bon, je suis passé à côté, je vais me reposer, je vais repartir sur un nouvel objectif dans 6 mois, je prends le temps, je remets des choses en place, je me remets une stratégie de préparation en place pour atteindre mes objectifs, et j'établis un peu un plan d'action, et puis après, feu, quoi. Mais faut vraiment être patient, analyser, Tu vois, c'est aussi, c'est ça qui est aussi bien dans ce sport-là, c'est que t'as, c'est pas un sport co, c'est un sport individuel. Donc du coup, t'as plein de secteurs à aller chercher, quoi.
Et c'est aussi, même si une course est ratée, la préparation reste. Donc quoi qu'il arrive, les acquis sont là et vous pouvez vous en servir sur la suite de la saison, quoi. Ça, c'est quand même un point important et qui peut enlever un peu de pression le jour J, parce que si jamais vous ratez, bah, vous pourrez vous rattraper, les acquis seront là.
Et le succès est toujours un enfant de l'échec.
Voilà, donc, voilà, on a que des philosophes là.
On a que des philosophes.
Ah, attention. Là, on va noter toutes les punchlines de Mousse et Diodu. Allez messieurs, tout de suite, on passe au bon plan matos.
RMC,
le bon plan matos.
Et on met en avant un bel ouvrage cette semaine, Marathon, 42 destinations et conseils pour prendre le départ. Mousse connaît pas encore le marathon, mais il pourra choisir grâce à ce livre. On accueille Fred Poirier, journaliste, photographe, collaborateur de Running Attitude et Jogging International, et qui est l'auteur de ce livre. Salut Fred.
Salut Benoît, merci de me recevoir.
Bah avec plaisir. Fred, c'est un vrai personnage de la course à pied en France, Johan, hein, tu le connais bien.
Le vois, à chaque fois que je suis sur un événement, je le vois.
Voilà, alors beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais vous l'avez forcément croisé un jour parce qu'il est là à prendre des photos sur les plus grandes courses de France et d'Europe, hein, d'ailleurs, Fred. Tu te balades tout au long de l'année. Hein.
Effectivement, bah d'ailleurs Benoît s'est vu dernièrement à Valence.
On s'est vu à Valence, on s'est vu à Paris.
On s'est vu à Paris, avant ça j'étais à Berlin, j'étais à Londres aussi.
Voilà, donc un vrai passionné de course à pied, Fred Poirier. Premier marathon à 19 ans d'ailleurs.
Eh bien écoute, c'était en 1984, donc tu vois, ça va faire 40 ans.
40 ans de
40
marathon.
40 ans, voilà, 40 ans et j'ai 42 marathons à mon compteur.
Ah, magnifique. Ah,
bah, je dis pas que c'est terminé, hein. je vais en courir encore d'autres.
Tu vas repartir.
Donc autant de marathons que de disputés, que de kilomètres. Et...
Mais c'est ce qui est génial, on va parler de ton livre dans un instant, mais toi, tu as vu toute l'explosion du marathon en France et en Europe, quoi. Toi, quand tu as commencé le marathon, c'était un truc hyper anonyme, j'imagine.
Je faisais de l'athlétisme, j'ai commencé par l'athlétisme, la piste, les crosses, etc. Et le marathon de Paris, 1984, moi j'avais vu l'année précédente, en 83, le marathon dans les rues de Paris, ça passait Quai Saint-Michel, ça passait en plein cœur de Paris.
Ouais.
Ça m'avait intrigué, je ne connaissais pas la distance, je savais juste que ça faisait 42 km. Et pour le marathon de 84, alors je ne sais plus très bien, j'ai dû m'inscrire peut-être un mois à l'avance. Je n'avais pas le foncier pour ça, évidemment. Hein. Et donc, quand je suis arrivé au départ, je suis arrivé une heure avant, il y avait du monde, on était 13 000 déjà au départ. C'était Avenue Foch.
Ah oui.
Avenue Foch. On avait les chaussettes en coton avec le liseré bleu et rouge en haut, voilà, les shorts starter et voilà. Puis les Marcel,
pas les chaussures carbone,
non, il y avait des Adidas Gazelle, je me souviens, entre autres modèles. Il n'y avait pas beaucoup de la représentation féminine était très faible, hein. Je suis incapable de dire, c'était vraiment, il y avait très peu de femmes qui couraient.
Ouais.
Et donc, je suis arrivé là. Le départ, c'était 17h un samedi soir au mois de mai. Ouais, et il faisait chaud.
Toutes les conditions
étaient réunies pour il avait fait chaud. Alors, il n'y avait pas les repères kilométriques. Il n'y avait que les 5 km qui étaient indiqués. 5, 10, 15, 20.
Pas de GPS, pas de montre.
Non.
Alors, voilà, mais c'est ça la course à pied, les gars.
Johan, figure-toi que pour la montre, moi, j'avais une montre à aiguille. Donc, au moment du départ, j'ai mis ma montre à midi.
C'est fou.
Ah ouais,
à midi pour avoir les minutes parce que les secondes, je m'en fichais un peu. Et puis on est parti dans le bois de Boulogne, comme un petit train. Je suis incapable de dire à quelle allure je courais. Les ravitaillements, je ne connaissais pas. Et c'était un bazar sur les quais de Paris. On prenait à peu près le parcours du marathon à contresens de ce qu'il est actuellement.
Ouais.
Et la circulation, c'était à moitié coupée. Il y avait des gars à mobylette qui voulaient passer. Enfin, c'était. Voilà. Et donc j'ai terminé ce marathon. C'était un peu usant à la fin. J'en avais un peu marre, en fait.
Bah,
plus de la lassitude qu'autre chose. Mais bon, voilà. J'ai mis 3h43, quelque chose comme ça, je
crois.
Pas
mal déjà.
Voilà.
Et t'as un record perso là aujourd'hui en 2h50, un peu moins.
2h47, il y a une dizaine d'années.
Bravo.
Et sur le marathon de Paris,
en plus.
Qui n'est pas réputé comme étant très roulant.
Bravo.
Et en plus, avec un petit negative split à la clé.
Ah, et bah tout ce qu'il faut.
Voilà. Et en plus, chronomètre en panne à partir du 10e kilomètre dans le bois de Vincennes.
Ah, en plus, donc
alors j'ai fait tout aux sensations.
Et bah voilà.
J'avais juste un petit peu la crainte d'aller trop vite, mais finalement, non, c'était hyper régulier. Mais ça, c'est peut-être ma pratique, je dirais, à l'ancienne où on n'avait pas les repères GPS ni rien. Donc je connaissais un peu la musique, je connaissais un peu par cœur le rythme qui était de 4 minutes au kilomètre.
Voilà.
Donc voilà, un truc facile à compter, tu vois.
Voilà,
on se pose pas de questions sur les temps de passage.
C'est plus facile.
4, 8, 12,
voilà,
8.
Tout simplement. Voilà. C'est ce qui est génial dans ton ouvrage, on va en parler tout de suite, c'est que tu présentes des destinations, Les marathons connus et reconnus sont plus mis en avant. Il y a plusieurs pages sur le marathon de Paris, sur le marathon de Londres également. Il y a aussi des petites pépites que tu vas chercher. Il y a aussi de l'histoire du marathon que tu racontes. Le marathon de Boston, la première femme qui va courir le marathon de Boston, qui est interdite au départ, qui parvient à franchir la ligne d'arrivée et qui continue de courir avec le même numéro de dossard. Il y a une préface de Dominique Chevelier, un grand monsieur de la course à pied. Il y a Méline Rollin, record woman de France en fin d'ouvrage. C'était pas seulement une encyclopédie du marathon. Tu voulais vraiment aussi un peu de culture marathon pour tous ceux qui vont acheter le livre.
Oui, voilà, tout à fait. Sur certains marathons, il y a des histoires bien précises, des anecdotes que tu viens de citer. Donc, c'était pour les rappeler. Donc, 42 marathons, c'est une sélection. Donc, c'est forcément mon choix, c'est subjectif. Donc, j'ai inclus tous les majors je rappelle, sont dans l'ordre du calendrier. Il y a Tokyo au mois de mars, il y a Boston ensuite au mois d'avril, suivi 6 jours plus tard par le marathon de Londres. Et puis après, on passe à l'automne, il y a Berlin, Chicago, New York, sachant que les majors vont intégrer bientôt Sydney, normalement. Sydney qui est au mois de septembre. Et en principe, Cape Town, en Afrique du Sud, devrait aussi rejoindre le circuit des majors.
C'est le programme, ouais. Voilà. Alors, allons-y dans le concret, parce que toi, tu les as classés par ordre chronologique. Pour toi, le marathon le plus mythique, c'est lequel ?
Ah, le plus mythique, je vais pas être original, c'est New York, parce que c'est un des plus anciens, enfin non, le plus ancien c'est Boston, Boston qui a plus de 125 ans, mais le plus mythique, oui, c'est New York, d'abord parce que ça tient à la ville de New York qui est mythique pour plein de raisons.
Tu l'as couru d'ailleurs ?
Non, j'ai pas couru le marathon de New York.
Tu l'as couvert en
revanche ? Oui, mais j'ai pas
couru. T'as couvert Christelle Donnet ?
Non, pas cette année-là. Non. Bon. Ouais, elle avait fait une super perf avec Paula Radcliffe aux fesses. Exactement. À la fin, là, dans Central Park. Donc oui, le plus mythique.
Deux femmes qui seront présentes au record du monde RMC, je le glisse comme ça. Mais...
Oui, ça, c'est vrai. Voilà. Donc oui, c'est le plus mythique. C'est lié à la ville principalement.
Les gars, il y a un marathon qui vous fait rêver, vous ? C'est New York aussi, Mousse ? S'il y en a un qui te vient en tête, c'est celui-là ?
Ouais, c'est le seul major que mon père n'a pas fait.
Ah bon ?
Ah ouais, ok.
Il a fait tous les.
C'est-à-dire qu'il a fait les plus faciles. Oh, Boston n'est pas très facile, mais New York est difficile. En fait, il s'est contenté de ceux qui étaient plats, quoi.
Je pense à l'époque, il n'y avait pas Tokyo. À l'époque, il n'y avait pas Tokyo parce que Tokyo est rentré dans le circuit des majors il y a quelques années seulement.
Ouais. Mais mon père, il l'a fait Tokyo.
Ah, il a couru Tokyo, d'accord, pardon. Ouais. Ouais. Le parcours a un peu changé dans Tokyo, mais bon, peu importe.
Johan, c'est lequel qui te fait le plus rêver ?
Moi, le marathon du Médoc. Le dur rouge.
Il est dans le livre, le marathon.
Ouais, il figure dans le livre, dans les marathons festifs et les marathons atypiques.
Ah, exactement. Merci. Le plus beau, d'ailleurs, c'est lequel ?
Alors, le plus beau, le plus beau, mais c'est lié à la ville. Je pense que Paris tient la corde parce que c'est lié simplement à la configuration de la ville. On voit quasiment tous les monuments de Paris. On ne voit pas l'abut de Montmartre, le Sacré-Cœur, parce qu'on n'y passe pas, et heureusement.
Heureusement.
On passe pas à rive gauche, donc on rate certains monuments de la rive gauche. Mais un petit descriptif rapide du parcours. On part sur les Champs-Élysées en descente, on passe place de la Concorde, on longe les Tuileries, on passe maintenant depuis quelques années place Vendôme avec la colonne Vendôme, on contourne l'Opéra. Depuis l'année dernière, on passe dans la cour du Louvre, après on passe Bastille, et même le château de Vincennes, c'est pas dans Paris, mais c'est un des lieux historiques de l'Île-de-France.
Et puis, la Tour Eiffel,
on revient à la Bastille une deuxième fois, et puis on a tous les quais de Seine. En plus, cette année, grâce à la crue de la Seine, tous les coureurs ont évité au début les quais de Seine en bas et le terrain des Tuileries.
Bah, c'était beaucoup trop facile cette année, t'as raison.
Donc on peut vraiment, si on veut courir un petit peu en dessous de sa performance absolue, on peut vraiment visiter Paris, profiter de Paris, et puis globalement il y a une bonne ambiance, alors moins exubérante et moins forte que certains autres marathons où il y a beaucoup plus d'ambiance, mais franchement Paris tient largement la corde pour beauté du parcours.
Ouais, c'est vrai, on a du mal à être objectif.
Je terminerai à Athènes, moi, sur le marathon authentique.
Il est dedans aussi. Le marathon d'Athènes, tu l'as mis dans le livre aussi.
Ouais, il y figure forcément parce que c'est le marathon. Alors, le marathon d'Athènes, je vais être franc, le parcours n'est pas folichon.
Voilà.
Il part de la petite ville de Marathon qui se trouve à 40 km de la ville, donc c'est un parcours en ligne. Au début, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ambiance parce que c'est la campagne. Et puis après, on arrive en périphérie d'Athènes. Il y a des endroits qui ne sont pas très, 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 très jolis avec quelques zones d'activité, etc. Par contre, l'arrivée dans le stade panhellénique, est vraiment fabuleuse. C'est vraiment...
Le marathon le plus perf.
Le plus perf.
Berlin ou Valence, alors ?
Alors, si on regarde les résultats cette année... à Valence. Tiens, Johan, as-tu une idée? Johan et Moustapha, avez-vous une idée du nombre d'arrivants en moins de 3 heures au marathon de Valence en 2023, en décembre dernier?
Sur combien de coureurs?
Sur 35 000 coureurs.
Ouais.
Avez-vous une idée du nombre de coureurs en moins de 3 heures?
Beaucoup, hein, parce que Ben...
Beaucoup, ça oui, on est d'accord, mais beaucoup, c'est combien? Allez, je te donne un indice, oui. Johan. À Berlin, il y a à peu près 2400 coureurs en moins de 3 heures.
Ah ouais.
Donc à Valence,
alors,
à ton avis.
Il y en a le double. Il y en a 4.
Eh bien, t'as raison, il y en a un peu plus que du double, il y en a 5200. Ouais. 5200. Il y a une densité.
Plus trop.
Il y a une densité de folie. Il y a une densité de folie, c'est absolument incroyable. J'ai jamais vu ça.
Mais on est à la limite. Hein. Nous, on l'a déjà raconté ici, parce qu'on avait débriefé Valence. Moi, j'étais en 2h50, tu te rappelles quand on s'est vu?
Oui, oui, tout à fait.
Et il y avait une densité folle, en fait. J'ai l'impression d'être dans un peloton de 4h, 4h30 ou 5h sur un autre marathon. Quoi. Ton coude touchait systématiquement le coude du voisin. Et c'est, d'un point de vue nervosité, c'est particulier aussi.
Oui, c'est vrai que c'est particulier. Parce que. Oui, tout à fait.
Il
n'y a
pas un mètre de dénivelé. Tu as l'impression que tu es sur un tapis tout du long. Quoi. Et en plus, les 5 derniers sont un peu descendants. Donc, tout est fait pour la performance. J'ai pas fait Berlin, moi. Mais celui-là m'a semblé effectivement très propice.
Alors Berlin est très roulant, la différence se fait sur les dates. Berlin c'est fin septembre, donc ça veut dire qu'il faut être à fond dans l'entraînement un peu en juillet, surtout août et septembre. Donc suivant l'endroit où l'on est, suivant le type d'été que l'on a, si c'est un été caniculaire très chaud, ça peut être compliqué. Valence, c'est une préparation d'automne. Titre personnel, moi je me souviens des préparations d'automne, j'ai couru plusieurs fois le marathon de La Rochelle, et j'aimais beaucoup les préparations d'automne. C'est un peu plus facile, les conditions météo sont encore bonnes, etc. On a quelques compétitions de préparation.
Exactement.
Et à Valence, en général, début décembre, les conditions sont bonnes, les grosses chaleurs sont passées. Oui. Sur les deux dernières éditions, les conditions météo étaient optimales. D'ailleurs, c'est un marathon, Valence, qui connaît un engouement incroyable.
Ouais.
Les inscriptions ont ouvert juste après l'édition précédente, là, donc grosso modo 50 semaines avant l'édition suivante, en 4 heures, c'est-à-dire le temps moyen d'un marathon pour beaucoup de gens, en 4 heures, les inscriptions étaient complètes. Et là, l'organisation... Mais
toute l'Europe vient chercher une perf.
Absolument. Il y a 6000 Français, c'est le contingent de coureurs étrangers le plus important.
Exactement.
6000 Français qui viennent, et cette année... L'organisation propose 1 million de dollars si un record du monde, homme ou femme,
c'est
peu importe,
pour ça que
est battu.
Veut y aller. C'est ça.
Battre le record du monde féminin. Ouais.
Et pourquoi pas? Le marathon révélation. Un marathon autour duquel tu n'attendais rien et où tu as été ébloui, tu t'es dit, mais c'est fantastique.
Le marathon de Stockholm, j'avais bien aimé.
Ouais.
J'ai couru il y a quelques années de ça, 2 années consécutives.
Ouais.
Ouais, vraiment un joli parcours, assez aéré. L'inconvénient, c'est que ça se court au mois de juin et ils font un départ le samedi en milieu de journée.
Oui.
Et donc, il peut faire très chaud, même en Scandinavie, à cette époque de l'année. Voilà. Et on arrive sur le vieux stade des JO de 1912.
Ah, oui.
Et j'aime bien les arrivées sur les stades.
Ah, oui.
J'aime beaucoup.
Ouais.
Il y a la même chose également au marathon d'Amsterdam. On part et on arrive sur le stade.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, voilà, à Stockholm, c'est arrivé sur le vieux stade.
Le plus atypique, je pense que c'est Tromsø. Ça, c'est dingue.
Alors, le marathon de Tromsø, effectivement, ça, c'est sur la côte nord de la Norvège.
En Norvège, ouais.
C'est au-delà du cercle polaire et c'est le marathon du soleil de minuit. Donc, c'est aux alentours du 20 juin.
Ah, c'est dingue, les gars.
Donc, le départ a lieu à 22h.
Ouais.
Donc, forcément, on arrivera le lendemain parce que sinon, il faudrait courir en moins de 2h et le parcours n'est pas du tout propice à une performance. Et donc, c'est le soleil du minuit et le soleil ne se couche pas.
Donc il fait jour tout du
long. Il fait jour tout du long. Alors la météo peut être variable et je pense qu'en 3 ou 4 heures de temps, on peut avoir les 3 saisons. Pas l'hiver parce que en général, il n'y a pas de neige, il fait quand même pas assez froid, mais on peut avoir de la pluie, du brouillard, des arcs-en-ciel, un beau ciel bleu. C'est une ambiance un peu irréelle. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est ambiance très paisible. C'est le long d'un fjord en aller-retour, mais il se passe quelque chose d'un peu intriguant et on est un peu en dehors du temps.
Et d'ailleurs, je précise, vous le verrez très bien dans le livre. Il y a de belles photos. Vous comprenez comme ça l'aspect complètement lunaire de ce marathon où il fait jour à 22h et on voit les gens comme ça courir. Ça doit être particulier d'aller se coucher quand il fait plein soleil.
Oui, c'est un peu bizarre. On est un peu en décalage horaire quand on a terminé. Ça. On ne sait plus quel jour on est.
Le marathon le plus surcoté, c'est lequel?
Je ne sais pas.
Pas se faire des ennemis.
Non, c'est pas ça. Mais encore une fois.
On m'a dit que Venise était très surcoté.
Alors,
j'attends à courir au bord de l'eau et tout, alors que c'est pas ça du tout.
Le marathon de Venise n'est pas très réputé au sens où on n'en parle pas beaucoup. Il n'est pas souvent cité. Mais effectivement, il y a des gens qui sont inscrits à Venise sans vérifier les informations, qui ont été extrêmement déçus. J'en connais même qui étaient presque outrés que ça se passe ça ne se passe pas dans Venise, parce qu'en fait, la ville de Venise est minuscule.
Bah oui.
Et seuls les 5 ou 6 derniers kilomètres sont dans Venise.
Voilà.
Et donc, grosso modo, les 34-35 premiers kilomètres se font en dehors de Venise, là, sur le continent. Et il y a quelques secteurs qui ne sont pas vraiment très jolis. On passe près d'une raffinerie et d'un port industriel. Ensuite, il y a le long pont là, qui mène à Venise. Et puis, seule la fin du marathon se trouve dans la ville. Donc,
tu ne vas pas t'échapper. Hein, tu vas me donner le marathon le plus surcoté.
Le plus surcoté. Eh ben, tu sais quoi, je vais te dire, le plus mythique aussi, c'est New York. Quelque chose qui est surcoté, c'est le coup du dossard.
Ah oui, bah ouais. Non, mais tu vas pas t'échapper comme ça. Tu vas pas sortir ça.
255 euros pour le... Non, mais c'est alors, pour relativiser par rapport à ceux qui...
Je me permets de dire quelque chose aussi, parce que beaucoup ont la chance d'y aller et reviennent parfois un peu déçus, même si le marathon est mythique, le parcours est fou et il y a de l'ambiance, c'est Boston. Parce que Boston... C'est pas un parcours en centre-ville. Pareil, tu pars de loin, t'es en banlieue de la
on
ville.
On part de Hopkinton et on revient. Oui, c'est un parcours.
Le parcours pur et dur est pas magnifique, quoi.
Non, il est un peu vallonné. Il est exigeant. C'est un parcours exigeant.
Ouais, il peut faire froid.
On peut mettre celui-là dans le surcoté ou pas?
Si tu veux. Mais en même temps, il a 125 ans d'existence. Hein.
Oui, c'est
d'ailleurs, c'est incroyable de se dire qu'au début du XXe siècle, des gens couraient les marathons. Quand tu vois les tenues improbables et puis les méthodes d'entraînement quasiment inexistantes,
ça, c'est le marathon le plus sous-coté.
Vienne. Ouais, Vienne,
c'est vrai,
là, Vienne, il était, j'y suis allé, j'y étais il y a 2 semaines, là, le 21 avril.
Ouais.
Il souffre un petit peu sur le plan médiatique de la concurrence de date avec le marathon de Londres, parce qu'il est le même jour.
Oui.
D'ailleurs, Vienne va décaler la partie de l'année prochaine début avril.
Okay.
Alors, il faisait le plein, il remplissait largement, mais c'est une très jolie ville.
Ouais.
Il y a beaucoup de beaux bâtiments, de beaux monuments à voir.
Ouais.
Le parcours, c'est en 2 boucles. C'est très pratique pour les spectateurs.
Ouais,
parce qu'ils peuvent voir passer les coureurs à plusieurs reprises sans trop bouger.
Mmh.
En même temps, il y a un semi-marathon et un marathon relais, ce qui fait que ça densifie un peu le nombre de coureurs sans toutefois provoquer trop de gêne. Et c'est franchement un marathon que je recommande.
Bon,
très agréable, une destination quand on habite en France qui n'est pas trop loin, ça ne coûte pas trop cher pour aller. Voilà, il remplit plein de critères positifs.
Parce que c'est le bémol pour ceux qui veulent faire le marathon de Valence, c'est qu'ok, tu prends le dossard, mais après tu regarderas le prix des billets d'avion et d'hôtel pour aller loger à Valence le jour du marathon. Là, les prix flambent, forcément. Ça fait 35 000 personnes qui débarquent à Valence et forcément, là aussi, il y a un budget à prévoir. Fred, c'était passionnant. Merci, je rappelle l'ouvrage. Marathon, 42 destinations et conseils pour prendre le départ. Il y a des conseils aussi, hein, tu le dis, hein, pour ceux qui découvrent le marathon. Et puis, il y a aussi des personnalités que tu as ressorties. Ça te tenait à cœur, toi aussi qui a...
Bien sûr, j'ai fait une sélection, là aussi, forcément subjective, de 42 coureurs. Et si je peux me permettre, un conseil que je dis souvent, notamment aux néo-marathoniens qui la veille, l'avant-veille, enfin la dernière semaine, flippent complètement. Des fois, ils perdent complètement leurs moyens. Ils ont l'impression qu'ils sont au pied d'une montagne.
C'est pour mousse,
je leur dis, vous avez fait le plus dur, c'est-à-dire les 3 mois d'entraînement intensif. Maintenant, demain, enfin le jour du marathon, vous allez faire le plus beau.
Et voilà, tout simplement. Voilà. Il y a juste à profiter, tu as raison. Merci Fred d'être venu. On fait gagner 2 exemplaires à la communauté RMC Running. Ils seront dédicacés par Fred, donc l'auteur du livre. C'est magnifique. Où est-ce qu'on l'achète, où est-ce qu'on le retrouve d'ailleurs si on veut l'acheter?
On le retrouve sur le site de mon éditeur, Casa Édition, et sinon on le trouve à la FNAC, on le trouve... vous pouvez le commander...
C-A-S-A.
Casa Édition, voilà, comme maison en espagnol. Et on le retrouve à la FNAC, dans les Cultura, et puis vous pouvez le commander chez votre libraire de quartier, vous pouvez même aller, si vous voulez, aller le chercher en courant.
Et voilà, pourquoi pas, t'as raison, ça c'est éco-responsable, et en plus ça mêle notre passion et l'envie de lire ce livre. Il y a toujours un test d'écoute pour la communauté, donc vous vous inscrivez, vous participez sur Strava et sur Instagram. Un test d'écoute pour... tentez votre chance et remportez un exemplaire du livre. C'est le record de mousse au saut à la perche. On l'a dit au début. C'est la question qu'on vous pose. Il l'a dit lui-même. Donc allez-y, répondez à cette question.
1h04, c'est ça, la perche? Non.
Bravo.
J'ai bien écouté.
Bien écouté. Merci Fred d'être venu, c'était passionnant.
Merci Benoît. Merci Mousse. Salut Johan, à bientôt.
Salut.
Merci à Mousse aussi d'avoir été avec nous. C'était un régal, Mousse. On espère que tu te remettras vite et qu'on te verra vite sur des lignes de départ. Pourquoi pas sur marathon d'ici la fin d'année? Tu décideras ça avec ton coach et papa Mohamed, Mousse.
J'espère. Énormément. Bon. Merci beaucoup pour l'invitation.
Et merci d'être venu.
Merci.
T'as choisi la musique pour terminer, Moussa. Hein, on est d'accord?
Exactement.
Je regarde Geoffrey Charpie, notre producteur.
Un parfum d'été un peu.
Ah,
ouh,
Angelo.
On va danser.
Angelo, on écoute ça. Pas mal ça.
On chill.
Geoffrey me dit c'est excellent. Il a pas des goûts musicaux fantastiques, mais là il a raison. C'est pas mal. Bon, merci Mousse d'avoir été avec nous. Merci à Johan Durand qui a été parfait comme d'habitude. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.